Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia.
Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission À l'air libre. Je suis aujourd'hui en compagnie de Théo Acola, que beaucoup d'entre vous connaissent bien en tant que musicien. Né à Spokane, dans l'état de Washington, à l'extrême nord-ouest des États-Unis, Théo Acola est issu d'une famille d'immigrants finlandais. Il est né en 1954. Il est installé en France depuis 1978, même s'il est retourné à Los Angeles quelques années. Fondateur des groupes de rock Passion Fodder et Orchestre Rouge, il a été producteur de plusieurs disques, dont le premier de Noir Désir, et de quelques albums solo, folk, country et rock, le dernier paru en 2007, et Drunk Women and Sexual Water, c'est aux éditions Wobbly Ashes Records, on peut le trouver encore chez les disquaires. Comédien, aussi bien pour le théâtre que le cinéma, il est également metteur en scène et surtout il s'est mis à l'écriture de romans, écrit en anglais mais publié en France et traduit par lui-même avec à chaque fois l'aide d'une personne. Je le rencontre aujourd'hui dans un café de son quartier à Paris, rue Trudaine, près de la butte du Sacré-Cœur, pour évoquer son travail et sa trilogie romanesque entamée avec La route du sang, poursuivie avec La valse des affluents, ces deux volumes sont parus aux éditions Serpent à plumes et qui s'est achevé l'année dernière avec Le sang des âmes, paru pour ce volume aux éditions Intervalle.
Théo, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes dans un café tout près de la butte Montmartre.
C'est vrai.
À côté de chez toi.
C'est juste.
Tu as... Peut-être ce quartier, tu l'aimes particulièrement. J'ai l'impression que tu es dans le coin depuis un moment.
Oui, mais pas par choix.
Pas par choix.
Par manque de mieux, par faute de mieux. Détail intéressant à propos de ce quartier. Nous sommes sur l'avenue Trudaine, à l'angle avec la rue de Rochechouart. Et Bénédicte Villain, qui travaille avec moi depuis très longtemps, musicalement parlant, comme violoniste, mais quand même qui a son mot à dire aussi sur ma production littéraire, parce qu'elle est assez érudite et exigeante, donc elle relie tout. Après quand même que les traductions ont été faites, Bénédicte était très agacée de voir un jour, pendant plusieurs jours, que rue de Rochechouart et avenue de Rochechouart, je ne sais plus quoi, avaient souvent dans les petites pancartes sur les murs des orthographes différentes.
Oui.
Donc elle a même écrit une lettre à la mairie et ça a fini par s'arranger parce que parfois ça s'est terminé avec un T, parfois avec un D, etc., etc. Donc maintenant, grâce à quelqu'un avec lequel je travaille, cette faute de français est arrangée.
Alors c'est amusant parce que tu as prononcé ton nom, Théo Acola, en marquant bien le H. Et tu me racontais justement que tu étais un peu obligé de faire ça parfois parce qu'on orthographiait régulièrement mal ton nom, y compris les gens avec qui tu travailles.
Oui, mais c'est pas bien grave, mais c'est un peu bizarre de... Par exemple, quand on fait un Google, j'ai découvert un jour que je peux faire un Google A-K-O-L-A au lieu de faire H-A-K-O-L-A et j'avais en fait plus de trucs que je pensais en avoir. Mais c'est pas bien grave, mais oui, je l'ai fait là pour qu'on relève le H. Parce qu'aussi, ça pourrait empêcher quelqu'un de trouver un de mes livres aussi, donc c'est par intérêt également que je insiste sur le H.
Alors, tu as tout de suite évoqué, j'ai envie qu'on commence par ça, tout ce que tu fais, de la musique, de l'écriture, tu fais de la mise en scène, tu es comédien, tu es un homme très éclectique. Et j'ai envie qu'on commence par ce côté éclectique de ta personnalité, ce côté touche-à-tout. Et comment tu navigues un peu dans tous ces domaines? Quel lien, s'il y en a un, ou est-ce qu'au contraire, tout ça est juxtaposé pour toi?
Je dirais peut-être en tête de tout ça, il y a la chose un peu aligner ces choses en fonction de la facilité que j'ai à faire ces choses. Mmh. Et le plus facile pour moi, c'est de faire des concerts. Le plus naturel pour moi, c'est d'être sur scène et chanter. Je ne suis pas né avec une grande capacité ou un grand talent pour la musique, mais j'ose dire qu'après plus que 25 ans de travail, j'ai réussi à avoir une voix dont je n'ai pas honte, au contraire, et une capacité à pratiquer cette chose dont je suis plutôt fier. Mais par contre, je suis né avec une chose, c'était en dehors du don du travail qui m'a permis, d'après moi, bien chanter aujourd'hui. Aussi, c'était complètement naturel pour moi d'être sur scène. C'est vraiment pas, ça ne me coûte pas, je n'ai pas le trac avant. Je suis dans mon milieu quand je fais ça. Ouais. Je ne dirais pas autant pour le théâtre comme acteur, ni pour le cinéma comme acteur. Là, je n'ai pas de grandes prétentions. Je pense qu'il y a certains rôles au cinéma que je peux faire. Il y a d'autres où je sais très bien que je ne suis ni Marlon Brando, ni Al Pacino, ni Crispin Glover. Enfin, je n'ai pas une capacité, un registre très, très large, et ce n'est pas grave. Et ensuite, arrive la littérature. Là aussi, ça demande un effort énorme,
oui,
qui est vraiment autre chose que faire des concerts ou faire des disques ou même écrire des morceaux. Mais grâce au don de travail, je finis par écrire des romans, donc également, je n'ai pas honte. Au contraire, au fur et à mesure qu'on me rassure suite à la lecture du public. Mais ça, c'est plutôt encore un don de travail. Je ne suis pas né avec ce talent. Je pense à... Je ne suis pas Rimbaud. À 20 ans, entre 20 et 30 ans, j'ai essayé d'écrire plus sérieusement. Et je pense que c'est une bonne chose que j'ai plutôt échoué et que j'ai commencé à faire la musique. Je crois qu'avec le temps, je suis un peu long avec tout. Et avec le temps, j'arrive à... Il me fallait du temps. Donc, mon premier roman, j'étais loin d'être jeune quand c'était publié en 2001.
Oui.
Et je pense que le deuxième, ça c'est juste mon avis à moi, était mieux. C'était un pas en avant par rapport à ma pratique de cet art. Et que peut-être j'ai trouvé, pas tout à fait une vitesse de croisière, mais au moins la conviction d'en être capable. Cela dit, je suis sur mon quatrième là, et c'est, comme est souvent le cas, assez laborieux.
Ouais.
Et ça va sans doute l'être jusqu'au bout, mais il y aura des moments d'éclat où tout d'un coup la rivière enfonce le barrage et ça coule comme il faut que ça coule. Mais les dernières fois que j'étais vraiment... J'ai passé 2-3 semaines sur le prochain roman, la rivière ne coulait pas si bien que ça. C'est chaque fois le cas.
On reviendra peut-être aux métaphores liquides,
oui,
et à ces rivières. Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui est finalement... assez logique dans tout ça, c'est-à-dire que l'écriture demande peut-être plus de temps et peut-être quelque chose de plus laborieux en général pour tous les écrivains. La musique donne cette impression, en tout cas, d'être quelque chose, un art plus spontané, plus immédiat, plus physique. Est-ce que peut-être que c'est simplement ça?
C'est tout à fait vrai, et moi, c'est tout à fait vrai, mais je dirais la bonne musique demande des efforts plus approfondis. Et j'ai eu ce qu'on peut raisonnablement appeler j'ai eu un vrai succès avec Orchestre Rouge, mon tout premier groupe. J'avais pas fait de groupe sérieusement avant. J'avais jamais monté sur scène avant Orchestre Rouge. Premier vrai concert d'Orchestre Rouge, c'était au Transmusical. On a dû monter sur scène vers 2h le matin. On a fait 4 appels. Donc on a dû jouer jusqu'après 4h. C'était, pour moi, incroyable, et ça ne veut pas dire quand même que ce qu'on faisait était très bien. Donc, comme, totalement d'accord avec toi, c'est spontané. Il y avait quelque chose, sans doute, le bruit, la présence scénique, d'autres choses qui ont joué avec ce succès. Et même les disques ne vendaient pas mal. Aussi, il y a un effet de mode. On était, sans le savoir, dans une vague où les gens étaient intéressés par cette musique-là. Pour moi, c'est surtout le premier album qui a vendu le plus. Et pour moi, mauvais, les concerts étaient pas mal. Le deuxième était déjà un pas en avant. Mais tout ce que j'ai fait depuis écrase ça. Mais ce que je fais, bien sûr, depuis et surtout aujourd'hui, n'est pas dans une vague, dans une espèce de mode, oui, comme a été Orchestre Rouge. Donc justement, la musique est plus spontanée et vraiment tributaire d'énormément de choses qui tournent autour. C'est pas grave, c'est juste un peu frustrant puisqu'on a plus du mal à... d'après moi, bien sûr, c'est mon avis, je fais la meilleure musique de ma vie. Et bien sûr, j'ai le plus du mal à le vendre. Et c'est pas parce que c'est difficile, entre guillemets. Et c'est loin d'être le propos, mais c'est dû à un tas de coïncidences, en fait, parfois, les raisons pour cette chose-là, d'après moi. Mais c'est pas une raison pour arrêter. Parfois, j'ai envie, mais c'est trop de plaisir, j'aurais du mal. Donc je continue à faire des concerts et je continue à faire des disques, mais pas avec les rythmes dont j'ai bénéficié autrefois. Il y avait un moment dans ma vie où c'était un album par an, par année.
Aujourd'hui, il y a plus de temps entre.
Voilà, et personne ne fait ça aujourd'hui.
Là, le dernier est paru quand, le dernier disque ?
En 2007.
2007, hein ?
Oui.
Et le précédent, c'était 2004,
oh mon Dieu.
3 ?
C'était 2000 pour 2000, la musique de la chanson de Zorro Andalou, ma pièce, mais c'était quand même un album assez conséquent. Et le dernier album normal, juste de moi, de ma musique, et sans que ça soit associé à un autre projet, comme une pièce de théâtre, c'était 98.
Oui.
Donc c'est long. Le problème aussi, la parenthèse qui aussi sapait les énergies que j'aurais pu peut-être mettre dans la musique, bien sûr, c'est de commencer à publier des romans. On peut voir dans le creux musical qu'il y a, dans la production discographique en tout cas, à la place, il y a les romans qui, oui, commençaient à sortir.
Alors justement, est-ce que ce travail d'écriture que tu fais quand même aussi quand il y a des chansons, parce qu'il y a l'écriture musicale, mais il y a aussi l'écriture des paroles, des textes de chansons, comment est-ce que tu passes de l'un à l'autre ? Est-ce que justement c'est un peu ce phénomène que tu expliques là, de sorte de transvasement de l'énergie de la musique au roman, ou est-ce que ça vit ensemble ?
Non, ça vit ensemble. Ça vit énormément ensemble, ça se vampirise. Il y a une chanson qui peut donner des idées. Il y a pas mal de chansons qui ont donné des idées. Il y a des personnages du livre qui ont quand même eu leur genèse dans des chansons. Et vice-versa, il y a des personnages, des chansons qui ont eu leur genèse dans des livres.
Des livres, oui.
C'est tout. Et dans les pièces du théâtre, la chanson de Zorro Andalou, en fait, était d'abord écrite, et il fait partie, c'est la vampirisation de mon premier roman qui est dans cette pièce. Et en rajoutant de la musique et des chansons, c'est devenu une pièce avec des chansons, mais les personnages de base et l'histoire de base à l'origine est une des clés de mon premier roman. Et le dernier album, par exemple, il y a une chanson qui s'appelle « J'envie le serpent », un des rares morceaux en français du disque. Il y en a 3, je crois, en français. Et le sous-titre, c'est « La complainte de Rachel Donnelly », qui est un personnage important dans mon 12e roman. Et ça se fait tout le temps comme ça, en fait.
Petite parenthèse avant de venir justement à la question de l'utilisation du français, mais tu as parfois utilisé mes romans et parfois mon roman, comme si cette trilogie était pour toi un roman unique, parce qu'il y a 3 tomes, ça se termine avec le sang des âmes, mais tu en parles parfois comme si c'était une œuvre unique.
Peut-être dans ma tête c'est le cas, mais je pense qu'on peut très bien les lire séparément et dans le désordre. Idéalement, on les lit en commençant avec le premier, mais je ne sais pas. Je considère ça comme un ensemble. Je dirais, si je dis mon roman, je devrais plutôt dire mes romans ou mon écriture. Et le quatrième, il est censé être pas lié aux 3 autres, mais je n'ai pas pu m'empêcher de quand même récupérer un personnage et une situation, un peu pour rire. C'est ludique un peu de... trouver un moyen de placer quelque chose. Ah, en tout cas, il y a un moment, il se passe des choses dans le troisième où il y a un personnage qui n'est pas identifié, mais qu'on vit pendant quelques pages. Ce personnage-là est devenu, va devenir le, un des personnages principaux de mon quatrième. Mais ce n'est pas la suite de la trilogie. Je considère que la trilogie est finie et peut-être un peu sans prétention, un peu à la Balzac. Il y aura toujours quand même des personnages récurrents et qui, à la limite, un personnage très important va avoir deux pages dans un autre livre.
Mais finalement, c'est aussi un peu ta façon de fonctionner d'une certaine manière. Ces personnages qu'on retrouve de livre en livre, on les trouve aussi. Enfin, il y a des thèmes, il y a des personnages, il y a des paroles qui se retrouvent dans la musique, qui se retrouvent dans des textes, qui se retrouvent dans des pièces de théâtre.
Tout à fait. Enfin,
tout ça se, occupe le maximum de territoire, je dirais, créatif. Comme si effectivement ces personnages existaient et pouvaient se promener dans des sphères artistiques différentes.
C'est juste.
Une petite pause musicale avant de reprendre cette conversation avec Léo Acola. Un extrait, un titre de son dernier disque Drunk Women and Sexual Waters chez Wobbly Ashes Records. Le titre s'appelle Defeat et vous y reconnaîtrez un thème lié aux élections, mais pas celles que l'on a connues récemment avec Barack Obama, mais les précédentes.
Nevermore. smoking in the first light of day. Woke up mourning the safe harbor of sleep. An icy voice intoning the dark forces enthroning my country. Loose cannon on deck, that plague will keep her pounding till everything's a wreck. You can stand in the way, you can bark and bray, but that ill wind will keep on blowing, that mad river will keep on flowing, that southern bell will keep on tolling for white men moaning and crowing till they're all dead and done a throwing. My country, oh my country, throwing my country away.
C'était Defeat, extrait de Drunk Women and Sexual Waters de Théo Akola. Retour à l'entretien avec cet homme éclectique.
Alors, la langue, justement, autre transfert, parce que tu passes de la musique à la littérature, de la scène à l'écriture, celui de la langue. Parce que tu as proposé ton premier livre, La Route du Sang, non pas aux États-Unis, parce que tu l'avais écrit en anglais, tu aurais pu essayer de trouver un éditeur là-bas, mais en France, et avec cette question de la traduction qui était complexe à résoudre, et ce qui t'a d'ailleurs, mes souvenirs sont très clairs là-dessus, ce qui t'a d'ailleurs retardé pas mal pour la parution de ce livre-là. Alors je voudrais que tu nous parles un petit peu de cette question de la langue, comment ça s'est opéré pour toi pour le premier livre, et puis après, progressivement, comment finalement la langue française, parce que tu l'as prise en charge toi-même, a été devenue indispensable pour toi dans l'écriture, dans le processus d'écriture.
Je pense que je ne peux pas écrire un grand roman, si je peux me permettre, en français. Je peux écrire des chansons en français, je pourrais écrire un sitcom en français, d'ailleurs je l'ai fait, une idée de sitcom. Mmh. C'était une des écritures les plus plaisantes et que j'ai jamais exécutées de ma vie.
Comme si tu étais sur scène, comme pour faire de la musique.
C'est ce genre de facilité, oui. Pur plaisir et naturel. Cela dit, ce qui est moins naturel, moins plaisir, c'est de le proposer, essayer de le faire produire. J'ai à peine essayé, et je ne suis pas prêt à beaucoup essayer, mais c'était un plaisir quand même. En tout cas, ça c'est un détail. C'était en français, écrit directement en français, puisque, bon, autre parenthèse, c'est assez pour moi sidérant à quel point la France du cinéma, la France de la culture, n'a jamais pu produire un seul sitcom digne de 30 Rock ou de Seinfeld ou même de Absolutely Fabulous. C'est dommage. Et je voulais écrire un truc particulièrement, précisément français, qui se passe dans le milieu du théâtre, qui d'ailleurs a été vampirisé pour mon deuxième roman, dans pas mal de détails. Mais j'ai mis cette parenthèse et ensuite j'ai oublié la question. Si, non, je sais la question. Je ne peux pas écrire quand même un grand roman en français, disons un roman de taille, puisque je n'aurai jamais la maîtrise totale de votre langue, en tout cas la même maîtrise de votre langue que j'ai de ma langue. Et je parle presque pas seulement de savoir conjuguer, mais je parle aussi de la possession tripale, ventrale, en plus de cérébrale et poétique de la langue. J'aurai toujours l'anglais dans lequel j'ai grandi, l'américain dans lequel j'ai grandi, plus que le français. Cela dit, je considère que j'ai assez de français pour me traduire si je suis accompagné. Donc, chaque fois, c'est traduit par l'auteur avec le concours de machines. Enfin, il y en a trois différents. Il y a une pour chaque roman. Et ces personnes accompagnent tout au long. Donc, je considère vraiment que c'est ma traduction. Mais si le moment où je le donne à l'éditeur, il est grosso modo sans faute, c'est aussi parce que une Française est intervenue et m'a accompagné et qui aussi a été là pour dire oui, ta phrase est belle, elle est intéressante, mais c'est un peu du pipeau. Alors si en anglais à l'origine c'était du pipeau, je peux garder. Ou si c'est tordu en anglais, je peux garder une phrase tordue
c'est
en français.
C'est voilà. Un choix d'auteur.
Mais si en anglais il est pas si tordu que ça et on me dit qu'en français c'est tordu ou mignon ou un peu bizarre, là j'ai fait une faute de traduction et c'est à revoir. Et au fond, je considère que la traduction française de mon livre est très 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 juste et à la hauteur de la version originale, mais j'aurais pas pu, je l'ai fait un peu comme un mot croisé, je l'ai fait comme quelque chose d'assez technique, en faisant appel bien sûr à un peu de la poésie qui est en moi, mais en gros c'est un travail technique et je n'ai pas cette capacité d'écrire directement en français, et je l'aurai jamais, c'est impossible, puisque c'est tout simplement pas ma langue natale. Donc c'est assez plaisant aussi, puisque comme un mot croisé, le boulot est là devant moi et j'ai pas besoin de me casser en deux pour créer. C'est un stade plutôt sympathique dans le travail de ce qui est finalement un roman à publier en français. Mais oui, par rapport à ce que tu as dit avant, par rapport à l'origine de moi comme traducteur de mes propres romans, c'est vrai qu'au départ, il y avait un traducteur prévu par le premier éditeur qui n'a finalement pas édité le livre. C'est une longue histoire, on ne va pas ennuyer les auditeurs avec ça. Et ce traducteur, qui est réputé et connu et respecté, et c'était d'ailleurs grâce à lui que l'éditeur en question voulait me signer, il a fait une traduction qui n'était vraiment pas bien. Il n'y avait pas que moi qui le pensais. Il y avait également l'éditeur qui pensait que c'était mauvais. Et on se mettait à corriger et corriger et corriger. Et finalement, je me suis dit, je vais reprendre tout d'un bout à l'autre et je vais me traduire. Mais avant ce problème avec ce traducteur connu, je n'avais pas l'idée que je pouvais me traduire. Et aujourd'hui encore, j'espère ne pas le faire avec les quatrièmes. Parce que le temps que je mets à me traduire, c'est peut-être pendant ce temps-là, je pourrais écrire un autre roman. Peut-être. Et que je préfère dépenser ce temps pour écrire un roman. Cela dit, on se fait payer pour traduire un roman. Donc c'est aussi une manière de gagner ma vie.
Oui. Alors, ce que je voudrais quand même aborder aussi avec toi, c'est, tu parlais tout à l'heure de vampirisation dans les domaines artistiques. Est-ce que, du côté de la langue, cette traduction que tu fais, elle n'est pas aussi enrichissante par rapport à ta langue propre, à ta langue d'origine? Est-ce que le passage, du coup, en français, te fait pas voir... Tu as dit tout à l'heure, il peut y avoir des phrases bancales ou quelque chose qui vont pas et te donner une autre couleur, finalement, dans le texte original. Peut-être pas pour le texte en cours, mais pour la suite, pour le nouveau, par exemple.
Si tu veux dire par là que est-ce que le fait de vivre et de fonctionner sur le plan terre à terre comme sur le plan littéraire en français dans ma vie enrichit mon anglais, je te réponds oui, sans doute. Ça doit ouvrir des portes, ouvrir des fenêtres et parfois amener un peu plus de soleil dans mon anglais, un peu plus de couleur dans mon anglais et un peu plus d'idées dans mon anglais. À mon avis, c'est le cas. Je ne peux pas juger exactement comment. Un exemple un peu grossier, c'est par exemple le tout premier album de Orchestre Rouge s'appelait Yellow Laughter, rire jaune. Ça veut rien dire en anglais, mais c'était amusant de, à la limite, mettre ça, c'est ambigu. Et peut-être ce genre de phénomène peut s'effectuer aussi dans mes romans, dans ma poésie, on va dire plutôt. Mais ce n'est pas obligatoirement intéressant, mais c'est juste un exemple de... Ça peut ouvrir des portes. Et parfois, tout le monde va dire... Ils ont quelque chose qu'ils ont envie de dire dans leur propre langue, mais ils sont obligés de le dire dans une autre langue, traduit même. Comme on dit en Espagne, comme on dit souvent... D'ailleurs, c'est quelque chose que j'utilise même dans mes chansons. Comme on dit en français, etc. C'est souvent ce qui préface une expression qu'on ne trouve pas dans sa propre langue. Le français doit sans doute m'aider pour ça aussi.
Et est-ce que, parce que tu me parlais de la vie dans ce quartier, des gens que tu connais par ici et à Paris, et dans les gens que tu fréquentes, qui sont des amis, mais aussi des artistes, mais aussi des écrivains, mais je ne connais pas exactement tes fréquentations, mais quelques noms comme ça, parfois, me font penser que tu rencontres aussi des gens qui sont sur deux cultures, sur une double culture, et que j'ai l'impression que tu es assez attaché à ça. Dans ta vie au quotidien, je dirais.
Oui, double culture, c'est-à-dire américain et français.
Pas uniquement, mais c'est vrai qu'à Paris, on a souvent cet avantage, je dirais, d'avoir l'étranger à domicile, d'une certaine manière, et de pouvoir pratiquer peut-être des échanges qu'on a moins dans d'autres villes ou dans d'autres pays.
Un peu, mais ça fait partie de mes frustrations avec Paris. J'ai certes fait des rencontres belles et intéressantes depuis toujours en France. Certaines portes ont été ouvertes pour moi par des gens que j'apprécie énormément humainement. Mais il y a toujours un moment, et sans doute, je ne pense pas que ce soit le Paris, par exemple, du début des années 50 ou le Paris des années 20 ou début des années 30, de la même manière que New York, juste après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à fin des années 50, le Greenwich Village par exemple. Bien sûr, on a des comptes rendus que par ce qu'on peut lire, mais je pense que c'était plus riche qu'aujourd'hui. Je pense que j'ai connu quand même the Lower East Side de New York dans le milieu punk musique de fin des années 70, donc je sais moi-même qu'est-ce que c'était, et c'était autrement plus riche, autrement plus excitant et autrement plus inspirant que ce qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est souvent peut-être l'impression que tout le monde a par rapport à l'époque, mais c'est pas grand-chose pour moi. Et c'est une vraie frustration, et c'est une des raisons pour lesquelles je me retrouverais aussi bien à la montagne, près d'une rivière, plutôt en solitude avec des chiens, et avec un peu de chance, un grand amour, qu'à Paris, où finalement, Paris ne me nourrit pas tant que ça, et c'est peut-être aussi de ma faute. Je profite peut-être plus assez de ce que Paris pourrait m'apporter. Mais humainement, ça m'a jamais assez défié, ça m'a jamais assez excité, et ça m'a pas énormément apporté. Humainement, sur le plan juste de l'amitié, bien sûr. Par exemple, je me sentais un peu triste de ne pas être aux États-Unis au moment des magnifiques élections de 4 novembre. N'empêche que j'ai trouvé beaucoup d'amis français qui étaient quasiment aussi émus que moi. On a fêté ça ensemble, et c'était pas une énorme... La lacune était peut-être d'avoir rien fait pour que ça arrive, de me sentir un peu presque minable, ou en tout cas un peu vide comme citoyen de mon pays, d'avoir pas été là-bas, d'avoir pas travaillé pour ça, vu qu'en plus j'étais formé, ma vraie formation de base c'est plutôt politique, et j'étais ici en train de juste lire le journaux, ouais. Enfin, comme un malade en plus, tous les jours, au lieu de faire quelque chose là-bas, ça c'était frustrant. Par contre, humainement, je me sentais pas seul et pas vide et pas en manque en ce qui concerne le plaisir partagé de ces victoires. J'ai connu pas mal de gens ici qui étaient très très émus et très contents de fêter ça ensemble.
Ma question, elle a son origine dans ce roman, dans Le sang des âmes, parce que il y a ce couple d'Américains, jeunes Américains, un peu naïfs, un peu idéalistes, avec ce garçon.
Pour ne pas dire bête.
Pour ne pas dire bête, oui. Avec ce garçon qui se fait une image de Paris, finalement, qui correspond à un mythe. Et voilà, cette introduction comme ça de Paris, je me suis demandé, en la lisant, si ça n'avait pas été à un moment ton état d'esprit en arrivant peut-être la première fois dans cette ville, et si aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas quand même quelque chose comme ça de l'ordre de la nostalgie, peut-être de quelque chose de vécu plus jeune ou de jamais vécu, parce que la nostalgie, on sait ce que c'est, ça correspond souvent à quelque chose qui n'a pas réellement existé.
Je crois que ma réponse est oui. Il y a de ça, j'ai la nostalgie pour quelque chose que j'ai vécu et que je n'ai pas vécu. Et en plus, j'ai connu des gens qui l'ont vécu. entre autres, j'ai connu, comme je raconte souvent, mais c'est aussi c'est important dans la base de recherche qui me permet d'écrire ces romans. J'ai connu pas mal d'Américains qui ont fait la guerre civile espagnole. Et tout ce qu'ils me racontent de leur jeunesse à eux dans les années 30, je suis ravi d'avoir pas eu à faire la guerre civile espagnole ou la Seconde Guerre mondiale, puisque chez eux aussi, ils étaient nombreux à faire la Seconde Guerre mondiale. Et ils étaient ravis d'avoir un petit jeune, ce que j'étais à l'époque, de 20 ans, qui les écoute et qui ne veut écouter que ça, leurs histoires de guerre. Parce que eux, à la différence, eux qui ont fait cette guerre, les deux, ouais, par conviction, étaient vraiment très contents de raconter en long et en large tout ce qu'ils avaient réussi, tout ce qui même était affreux, tout ce qui était drôle. Ils en parlaient à table pendant très longtemps. Et sans honte, au contraire, avec beaucoup de fierté et beaucoup de rigolade entre eux, beaucoup de camaraderie. Et c'est sûr que les époques qu'eux, ils évoquaient, étaient tellement loin de ce que je vivais déjà au milieu des années 70, quand je les ai connus, comme aujourd'hui, que je ne pouvais qu'avoir un peu de nostalgie pour tout ça, tout en étant ravi qu'on n'a pas fait une guerre mondiale depuis 1945. Évidemment, je ne suis pas assez bête pour souhaiter une telle chose. Mais ce n'est pas que les guerres qu'ils ont faites, c'est aussi comment était la vie à cette époque-là. Ça me travaille, bien sûr, cette nostalgie. Beaucoup de nostalgie, de beaucoup d'époques et beaucoup de coins. Mais je ne pense pas que ce soit naïf. Et je ne pense pas non plus que ce soit irréaliste. En gros, je sais comment est le monde aujourd'hui et je sais où j'ai envie de vivre. Et où j'ai envie de vivre, ce n'est pas dans Paris d'aujourd'hui, ni New York d'aujourd'hui, mais encore dans les montagnes de l'Idaho, à l'ouest de l'état de Montana, près d'une rivière. Et c'est vraiment sans plaisanter que je dis que c'est la meilleure chose que je pourrais éventuellement avoir de ma vie. Peut-être 9 mois par an là-bas et 2-3 mois dans les grandes villes pour me ressourcer humainement et culturellement.
Alors ce paysage, on le retrouve dans tous tes livres, hein, c'est toujours là à un moment ou un autre, soit directement, soit par l'évocation d'un oui, passé, du passé direct des personnages ou au contraire des généalogies précédentes, donc le lieu d'origine peut-être. On peut s'attarder peut-être un petit peu sur cette trilogie et justement sur la façon dont tu as construit avec tous ces personnages qui se retrouvent dans différents romans, avec tous ces croisements d'histoires personnelles, l'histoire, tu l'as évoqué, la grande histoire des guerres, et tu remontes plus loin, puisque après il y a aussi l'arrivée aux États-Unis des premiers personnages familiaux finlandais qui arrivent. Donc tous ces parcours.
Dans le premier et le deux, je raconte les Finlandais. Entre autres, je raconte les immigrés finlandais dans le nord de l'Idaho. Et dans le troisième, j'avais envie de raconter. Et ça m'a demandé beaucoup plus d'efforts de recherche, puisque je connaissais pas bien les paysages, le coin en question. Je voulais raconter le départ. Pourquoi ces Finlandais ont quitté la Finlande. C'est pas que des raisons économiques, en tout cas pour ce qui concerne mes personnages à moi. Je voulais inventer les raisons de leur départ dans le troisième.
Il y a toujours l'histoire en arrière-plan, mais ce sont des parcours personnels.
Pour
toutes ces histoires, pour tous ces bouleversements des uns et des autres de tes personnages.
Et il n'y a pas énormément d'histoires. Enfin, il fallait que ce soit... J'ai demandé à 2 Finlandais, d'ailleurs, de me lire aussi. Ils ont relevé quelques défauts aussi par rapport à ma reconstruction. Mais un truc assez marrant, c'est en Finlande, dans le coin d'où viennent mes personnages, Ostrobotny, je crois on dit en français, Ostrobotnia en anglais. Beaucoup de villages ont des espèces de petits musées ou des maisons préservées qui montrent comment était la vie il y a 100 ans. C'est un peu peut-être comme aux États-Unis, on veut montrer aussi comment était la vie à l'époque de la Grande Ouest, la conquête de l'Ouest, etc. Il y a bien sûr ça, plus touristique, mais là c'est peut-être pour que les jeunes les collégiens aillent voir comment était la vie de leurs arrière-grands-parents. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de ça. Donc on peut voir comment étaient organisées les fermes à l'époque, comment était organisée la cuisine à l'époque, etc. Donc j'ai pu voir pas mal de ces choses-là en allant en Finlande, qui m'aidaient à être peut-être un peu plus authentique dans mon compte-rendu, mais c'est un peu osé. D'autres domaines, je pense que je maîtrisais mieux puisque j'avais grandi dans les coins que j'ai racontés ou j'ai vécu dans les coins que je raconte. C'était là, ça m'a demandé des efforts. La guerre civile dans le premier roman est tellement là parce que ça m'a demandé très peu d'efforts parce que j'avais tellement fait de recherches pour d'autres raisons de ma vie à propos de ça que ça m'a économisé énormément de temps en bibliothèque. Par contre, pour ce troisième, il fallait que j'aille là-bas et que je voie les choses moi-même.
Tu parles de guerre civile, il y a plusieurs guerres civiles dans cette trilogie dont tu parlais de la guerre d'Espagne tout à l'heure. Là, la première dont tu parles pour le premier roman, c'est guerre civile espagnole. Tu traverses comme ça des thèmes où tes romans sont traversés par des thèmes qui sont quand même qui tournent souvent autour de cette histoire de guerre et de violence et de drames subis. Même si ça ne décide pas forcément du parcours des personnages, mais c'est quand même là toujours.
Oui, c'est marrant. À mon avis, quand j'étais plongé dans la guerre civile espagnole dans mes études et ensuite dans la politique d'Espagne antifranquiste, milieu des années 70, à mon avis, moi qui est moitié finlandais d'origine, je ne savais même pas, je savais trois fois rien de la guerre civile finlandaise. Et donc, c'était... C'est pas fait exprès, mais c'est un peu marrant. Je l'évoque, je plonge pas très profondément dans mon troisième roman, dans cette guerre-ci, mais je l'évoque et j'évoque plutôt l'effet de cette guerre sur les immigrés finlandais aux États-Unis et les engueulades entre eux, qui à la limite, c'est un passage totalement inventé, mais j'ai des raisons pour penser que ça a pu avoir lieu. Dans ma propre famille, par exemple, j'ai un grand-père très à gauche, anarcho-syndicaliste, membre des Wobbly à un moment donné. Et j'ai une grande-tante, sa demi-sœur, que j'ai bien connue, qui est réac, qui est raciste, qui vient tout juste de mourir à l'âge de 94-15 ans, qui parlait finnois couramment, mais une finnois du 19e siècle sans doute, parce qu'elle a appris par sa mère immigrée. Et... Donc j'étais un peu au courant de ces schismes dans le milieu des immigrés finlandais et je voulais évoquer ça, mais je n'approfondis pas énormément. C'était pas trop le propos du troisième roman. Mais c'est drôle cette histoire de guerre civile parce que même dans le prochain, il y a encore une espèce de guerre civile, c'est parce que ça se passe dans l'ex-Yougoslavie des années 90.
Et est-ce que tu as d'emblée, à l'écriture de ton premier roman, envisagé d'aller aussi loin et de réaliser une trilogie? Ou est-ce que ça s'est constitué à l'écriture ou même après la sortie du premier?
Deuxième formule. Jamais de la vie pensais-je que j'allais en faire une trilogie. C'est à la limite, le premier, c'était de... Je pensais que je devais écrire un roman, je pensais... que j'avais des bonnes idées et je crois que c'est une de mes faiblesses. Je crois, maintenant encore, je dis que j'ai appris à écrire des romans. Mais au départ, j'étais beaucoup plus riche en idées que vraie capacité d'écriture. Je pense que même autrefois, avant de faire la musique, quand j'ai commencé des romans, mes idées étaient formidables. Encore, je les assume. Et c'était plutôt à niveau des idées où j'assurais et à niveau de talent pour l'écriture, capacité pour l'écriture et rigueur et même maîtrise de ma langue. C'est là où j'avais des lacunes et c'est là où vraiment mes livres m'ont coûté, quoi. Que c'est là où il fallait travailler.
Il faut dire qu'effectivement, tes romans sont chargés d'histoires, d'inventions, de parcours, d'itinéraires. C'est très dense, c'est très touffu, c'est très, c'est une forêt sans fin. On peut se perdre dans cette forêt. Alors il y a des indications généalogiques, il y a des indications, mais il y a énormément de personnages, il y a énormément d'histoires qui se croisent et s'entrecroisent. Donc je comprends très bien ce que tu veux dire avec toutes ces idées. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est comme pour
toi, peut-être, une sorte d'intérêt aussi pour l'épopée. Ça, il y a une dimension épique dans tes livres qui est certaine, mais aussi peut-être les légendes ou les mythes contemporains. Quand je dis contemporain, c'est depuis un siècle, on va dire.
Tout à fait. Je suis d'accord.
Et ça se place autant au niveau familial qu'au niveau historique, là aussi. Il y a des légendes familiales.
Oui, mais que j'invente, justement, parce que peut-être ça m'a manqué. J'ai appris certaines choses intéressantes sur ma famille, mais qu'après d'être parti de là-bas. Et ça m'étonne même que... C'est fou à quel point... Je pense que si j'ai pas d'enfants, et si j'en avais, je crois que mes enfants seraient beaucoup plus obligés de supporter mes histoires, mes anecdotes, et pas seulement les anecdotes de ma propre vie, mais les vies que j'ai connues. C'est dans ma nature de vouloir raconter ces choses-là aux proches. Et bien sûr, j'aurais sans doute la prétention de penser que mes enfants doivent savoir tout ceci. Ils doivent savoir d'où ils viennent. Et c'était aucunement le propos dans ma famille.
Ça te manquait?
À l'époque, non. Je ne me suis pas posé la question.
Quand tu as commencé à écrire, ça devait te manquer peut-être.
Oui, à la limite, j'ai rempli les cases vides moi-même. J'ai inventé ce qui pourrait être une histoire familiale inspirée par ce que j'ai connu. J'ai connu cette arrière-grand-mère qui a inspiré le personnage de Pirio. Mais c'est connu, c'est peut-être beaucoup dire, mais elle est morte quand j'avais 8-10 ans. Donc quand même, j'ai une image d'elle physique. Et là, je tenais beaucoup à cette image physique d'elle vieille. J'ai essayé de le reconstituer, presque en hommage à cette dame. Mais j'ai appris juste des lieux communs sur elle quand j'étais jeune, et comment elle était comme être humain et tout. Et c'était pas tellement à propos dans ma famille de raconter tout ça. Et ça c'est un peu aussi, si je peux me permettre, c'est un peu grandiose, mais c'est l'histoire d'un Amérique. Et peut-être je voulais un peu remédier à ça. Oui. Je voulais que les gens prennent davantage conscience d'où ils venaient et pourquoi ils étaient là et qu'est-ce que ça a coûté à ceux qui les ont précédés pour qu'ils soient là, etc., etc. Et je crois, ça, pour revenir un peu sur notre président, et c'est vraiment drôle de pouvoir dire notre président sans avoir envie de dégueuler en même temps. Et il est très porté sur ça, et je trouve que c'est très important. Quand il a fait face à des questions autrefois sur son prêcheur, le fameux Reverend Wright, qui est, pour faire vite, un idiot qui a failli vraiment saboter la campagne d'Obama. Quand il, finalement, un peu dos contre le mur, il a fait un grand discours sur la race, à Philadelphie, sur les questions de la race et son rapport avec sa race, c'était magnifique. C'est là où vraiment quelque chose s'est passé en moi, même où je disais quel pied si cet individu pouvait être finalement élu. Mais sa manière d'aborder ses propres origines et le rapport entre ses origines et l'Amérique, pour moi, est très émouvant et très important. Et ça fait partie de ce qui est la richesse de mon pays, qui est quand même... C'est une folie, quoi, de mélanger autant d'origines et d'arriver à avoir un pays bien ou pas bien. C'est autre chose, malheureusement, comme question. Mais pour ce qui est du bien, c'est quand même fou d'avoir réussi à mélanger tant de gens et quand même faire plus ou moins en sorte qu'on vive plus ou moins ensemble. C'est passionnant, c'est fascinant. Et c'est ça, sans doute, que je développe dans mes romans, beaucoup plus que ça avait été développé en famille. Et pas seulement en famille. Et ça a du charme aussi que Spokane, la ville d'où je viens, est si assimilée. Mais comme parfois j'essaie d'expliquer aux gens qu'il faut qu'ils se rendent compte qu'être juif à Spokane, c'est par exemple juste aller à une autre église. Et un autre jour, c'est pas une église, mais vu qu'à Spokane, tout le monde va à l'église, dans la tête de moi à 10 ans, mes amis juifs à l'école, ils allaient à une autre église. Oui. Et il n'y avait rien d'autre qui nous séparait. Eux, comme moi, sans doute, avec le temps, on s'est rendu mieux compte que si, il y avait l'histoire qui nous séparait ou qui pouvait nous séparer. En tout cas, chacun a dû faire un peu plus de recherche sur ses propres origines. Et eux, sans doute, ils étaient un peu plus conscients vu ce que ça leur a coûté aussi de faire cette traversée, etc., etc. Mais dans les années 60, l'assimilation dans une ville comme Spokane était telle que ce n'est pas vraiment des questions qu'on se posait, et ce n'est pas obligatoirement un mal non plus, que c'est comme ça qu'on a construit le pays. Il se trouve que ces gens, par hasard, étaient plus à gauche, enfin moins réac que les gens avec mes origines à moi. Il y avait des petits détails là, comme ça, que je comprenais plus tard. Mais on se posait vraiment très peu de questions. Quelqu'un s'appelait Petra Gallo. On ne se disait pas, oh, elle est italienne, donc catholique. On voyait d'abord qu'elle était catholique. Et c'est, en tant qu'adulte, je me suis dit, oh, évidemment, Penny Petragallo était d'origine italienne. Mais on se disait même pas ça quand on était petit. Tellement, c'est pas New York. Je parle vraiment d'une assimilation de troisième génération. C'est différent que d'autres grandes villes où les gens qui sont là sont souvent des enfants d'immigrés, par exemple.
On a commencé l'entretien avec ces questions sur le fait d'être un Américain à Paris, mais c'est vrai que c'est vraiment frappant en t'écoutant, en lisant tes romans, cette passion que tu as pour l'histoire de ton pays, pour ce qui se passe dans ton pays au quotidien, avec évidemment l'élection d'Obama dont tu as parlé plusieurs fois, mais auparavant, à chaque fois que je t'entends parler, à chaque fois que je lis un texte, une chanson, c'est toujours... ça baigne toujours dans l'histoire contemporaine des États-Unis. C'est vraiment quelque chose qui te passionne et qui te fait vibrer d'une certaine façon, j'ai l'impression.
Tu dis histoire contemporaine, mais c'est à la limite toute l'histoire américaine et l'histoire contemporaine, vu que le pays est si jeune. Mais c'est quand même pas mal l'histoire du 19e dans mes romans.
Mais je remontais jusque-là, oui, effectivement.
Ce que tu dis est juste, et c'est sans doute lié au fait que je suis là. Peut-être si j'avais jamais quitté mon pays, j'aurais été moins travaillé par le manque. Et ce manque m'a peut-être amené vers plus d'envie d'Amérique, ou plus d'envie de l'histoire américaine. Comme ce même manque, le fait d'avoir grandi... dans une ville, mais pas une grande ville, et d'avoir passé beaucoup, les meilleurs moments de mon enfance en dehors des villes, le fait d'être en manque des montagnes et des rivières, à mon avis, ça a été aiguisé par le fait que j'habite à Paris depuis si longtemps aussi. C'est en fonction des manques, sans doute, que je fais pas mal, ou que je crée pas mal des choses que je crée.
Tu peux juste peut-être, pour terminer, nous dire un petit mot sur ce quatrième livre que tu as évoqué, qui se déroule en ex-Yougoslavie, ou en tout cas, qui a comme décor...
Comme le deuxième, bon, le premier pompe la légende, qui n'est pas vraiment une légende, mais plutôt une invention hollywoodienne de Zorro. Le deuxième pompe sérieusement et avec beaucoup de plaisir la Chartreuse de Parme de Stendhal. Le troisième, je ne sais pas si tu as relevé, mais il pompe un peu Hamlet, à l'inverse. Le jeune Perriot a 12 ans, a sa mère qui meurt, et c'est sa tante qui laisse peut-être mourir sa mère ou pas, et qui épouse son père, le veuf, épouse la sœur de celle qui est morte, et la fille à 12 ans n'est pas très contente, donc elle est un peu Hamlet. Bon. Parfois, des petites choses comme ça m'aident à avancer. C'est un peu ludique.
Un canevas.
Oui.
Un canevas ludique.
Oui. Et le quatrième, l'idée de base était de un peu voler c'est Henri Jean Roche, Jules Gim.
Jules Gim, oui. C'est Henri-Pierre Rocher.
Henri-Pierre, pardon.
Oui. Henri-Pierre.
À éditer ou éliminer ou laisser, puisque en plus je dis que je l'ai pompé. Jules et Jim, en tout cas, on peut se référer à Truffaut aussi, bien sûr, pour le film. Mais l'idée, c'est de un peu faire de Jules et Jim à l'envers, c'est deux filles et un garçon. Sauf que le garçon est un Américain et les deux filles, ce sont des Serbes. Et ça se passe au début de ce siècle, mais à l'ombre des guerres des années 90, enfin ce qui se passait en Bosnie en particulier, mais ensuite, la Serbie contre la Croatie et ensuite le bombardement de l'OTAN de la Serbie et la guerre autour de Kosovo. Ça, c'est la base. Enfin, ça se passe dans ce milieu-là et ça tourne autour de ces questions-là, mais comme est souvent le cas, j'essaie aussi de fabriquer une histoire d'amour qui joue avec ça, Et voilà, grosso modo, c'est ça. C'est vraiment pas, je ne suis pas de près Jules et Jim, mais c'est un peu la formule de base qui m'a peut-être un peu inspiré pour essayer d'aborder une question intime à l'intérieur d'une question moins intime. Et je voulais faire un roman plus court, plus simple, et pas lié aux trois autres, et quand même, je ne peux pas m'empêcher de faire en sorte que l'Américain en question, qui est journaliste à Paris, ait des origines serbes, donc je suis désolé, nous sommes obligés de quand même aller voir un peu le parcours de son arrière-grand-père qui s'est installé dans le Nevada comme mineur. Chose qui a été le cas, il y a pas mal de documentation à propos des immigrés serbes qui travaillaient dans les mines de Nevada il y a 100 ans. Donc il y a un rapport quand même aussi là avec mes autres romans.
Voilà, ça va obliger tes lecteurs à aller fouiller un petit peu dans les autres, en attendant celui-là qui est en cours d'écriture, donc on ne va pas l'avoir à lire tout de suite.
Il faut attendre un an et demi à mon avis, parce qu'il faut peut-être encore 6 mois pour le finir, et ensuite il faut le traduire.
Merci Théo.
C'est moi.
Et à bientôt.
Bonjour Marseille.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia.
Voilà, c'est la fin de cette émission, une conversation à Paris avec le musicien, interprète, metteur en scène, comédien et écrivain Théo Akkola. Je rappelle le titre de son dernier livre, Le sang des âmes, paru aux éditions Intervalle, qui fait suite à La valse des affluents et à La route du sang, enfin une suite pas tout à fait, puisqu'on peut lire chaque livre indépendamment, mais les personnages se retrouvent parfois et les thématiques surtout également. Je rappelle également le titre de son dernier disque, Drunk Women and Sexual Waters, aux éditions Will Be Ashes Records, que vous pouvez écouter avec plaisir. On en a entendu un morceau, Defeat, pendant cette émission. Cette émission présentée par Pascal Jourdana, à la technique Tony. Vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Grenouille, www.grenouille888.org. Prochain rendez-vous, premier mercredi du mois de mars à 11h, comme d'habitude, tous les premiers mercredis du mois, vous retrouvez à l'air libre. J'aurai le plaisir de vous y retrouver le mois prochain. À bientôt. Wow.